Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Julienne Mudinga.
Vous suivez bien la radio Inzamba à Gatekakawe, c'est l'heure du journal et de ce vendredi 17 juillet 2026. Donc voici d'abord les titres. Le procès opposant Agathon Rwasa au groupe Guinukushaka a été reporté pour délibération. Rwasa attribue l'absence de la partie adverse à un manque d'arguments et se dit confiant quant à une décision en sa faveur dans 2 mois. La CAD Burundi dresse un bilan largement négatif sur la situation carcérale au Burundi pour le mois de juin et demande au gouvernement de libérer les prisonniers et à purger leur peine pour le désengorgement des prisons. La FENASEB appelle le gouvernement à examiner les causes du faible effectif scolaire avant toute fermeture des établissements comptant moins de 25 élèves au fondamental et moins de 15 au poste fondamental. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Audience publique hier à la Cour suprême dans le procès opposant Agathon Rwasa et le groupe qui dit président légitimement le parti CNL est dirigé par Nestor Guilkouchaka. L'affaire a été mise en délibéré en raison de l'absence des membres de ce groupe. Agathon Rwasa explique cette absence par le manque d'arguments de ce groupe dans ce procès. Il espère qu'à l'issue de 2 mois convenus, l'affaire sera tranchée en sa faveur. Agathon Rwasa.
La Cour suprême, dans sa chambre législative, a décidé de statuer sur les écrits conformément au prescrit de la loi. C'est tout à fait conforme et donc nous ne pouvons qu'attendre justement que la Cour suprême, dans sa chambre administrative, nous appelle pour nous communiquer les résultats de leur analyse de nos dossiers respectifs.
Nestor Guilkouchaka a dit que sa partie ne s'est pas présentée parce que la Cour n'avait pas encore répondu aux préoccupations lui soumises en rapport avec la procédure du procès et la garantie de sécurité des gens qui se présentent au procès. On l'écoute.
Nous avons adressé une correspondance à la Cour suprême pointant du doigt la situation qui prévaut autour de ce dossier ou procès, car le procès est encore au niveau de la forme et on est en train de traiter les exceptions. Nous ne comprenons pas encore comment le requérant a choisi 10 personnes parmi 1400 congressistes et les critères utilisés pour opérer ce choix. En plus de cela, le requérant n'a pas spécifié en quoi chacun des 10 congressistes aurait contribué dans son éviction, étant donné que les décisions prises par le Congrès sont souveraines. Nous avons en outre demandé à la Cour de nous clarifier pourquoi le requérant s'arroge toujours le droit de se dénommer président du parti CNL alors qu'il a été remplacé par la décision du Congrès entérinée par l'acte du ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions. S'il les a rejetés, dans ce cas, il faudrait qu'il porte plainte contre le ministre ayant la gestion des affaires des partis politiques dans ses attributions, car c'est lui qui a entériné les décisions du Congrès extraordinaire. À chaque fois que la Cour suprême a convoqué l'audience pour ce procès, il y a toujours eu des tentatives de perturbation de la sécurité des défendeurs sous forme d'agression physique, soit par des tapages sur le véhicule. Nous avons présenté l'état des faits à la Cour suprême sous les 2 aspects. La non-clarification du sujet de procès et l'établissement de responsabilité, mais aussi le point de sécurité des défendeurs. Malheureusement, l'audience du jour est arrivée avant que la Cour suprême ne réponde sur les 2 aspects.
Pour cela, Agathon Rwasa, président du CNL, non reconnu par le pouvoir, à l'issue de son audience devant la Cour suprême, a déclaré ce jeudi que les autorités burundaises devraient garantir une compétition politique ouverte, permettre à tous les partis de participer librement aux élections et respecter le verdict des urnes. Il appelle également le gouvernement à mettre fin aux entraves visant les partis d'opposition, estimant que le CNDD-FDD redoute une véritable compétition électorale. On écoute Agathon Rwasa.
Nous n'avons pas peur des élections. Au contraire,
Nous demandons au gouvernement et aux dirigeants actuels de se ressaisir, qu'ils surmontent leur crainte de la compétition politique et acceptent que tous les acteurs puissent concourir librement dans une compétition transparente où le vainqueur l'emporte et le perdant accepte le verdict des urnes. Ce que nous demandons, c'est que celui qui remporte les élections gouverne pour tous les Burundais et non pour son seul camp, comme nous le constatons depuis l'arrivée au pouvoir des dirigeants actuels qui en sont venus à confondre l'État avec leur parti politique. Cela n'est pas acceptable. Le président de la République devrait montrer qu'il est au-dessus des intérêts partisans. Pourtant, on entend parfois tenir des propos du type « nous allons les écraser ». Ce type de discours n'a pas sa place dans la bouche d'un chef de l'État. C'est cette manière de faire de la politique qui, selon nous, doit changer.
Inzamba.
Pour la suite de ce journal, la CAT Burundi dresse un bilan largement négatif sur la situation carcérale au Burundi pour le mois de juin. Plus de 14 000 prisonniers sont détenus dans les différentes maisons de détention alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas 4 000. C'est du moins le contenu du rapport publié par cette organisation qui déplore la cause principale. Suivez à ce propos Judith Ebasutama, la chargée de communication au sein de la CAT Burundi.
Le rapport de monitoring d'ACAT Burundi sur la situation carcérale au deuxième trimestre montre qu'à la fin du mois de juin, le Burundi comptait 12 216 détenus pour seulement 4 294 places, soit un taux d'occupation nationale de 284,49%. La prison de Muramvya détient le record, car il a atteint un taux d'occupation de 887%. Cette surpopulation est alimentée en grande partie par le recours excessif à la détention préventive. 5 755 personnes, soit 47,11% des détenus, attendent toujours leur procès. À la prison de Bimba, les prévenus représentent même 64,55% de la population carcérale. À cette lenteur judiciaire s'ajoutent des difficultés logistiques suite à la décentralisation des parquets communaux. Les prévenus des zones lointaines sont bloqués en cellule pendant 2 ou 3 mois par manque de transport pour comparaître devant les juridictions compétentes. Le trimestre a certes été marqué par la libération de 400 détenus de droit commun, mais cette mesure n'a pas permis de résoudre le problème de fond. De nombreuses personnes acquittées ou considérées comme prisonniers d'opinion demeurent détenues. En Pimba, des témoignages font également état d'irrégularités dans les opérations de libération, notamment des listes falsifiées et des soupçons de corruption.
La CAT Burundi demande au gouvernement de libérer les prisonniers ayant purgé leur peine pour le désengorgement des prisons. Encore une fois, Judith Basutama.
Le rapport met aussi en évidence les conséquences humaines de cette surpopulation. Dans plusieurs prisons, les détenus souffrent de pénurie d'eau potable, de rupture de stock alimentaire. Et à titre d'exemple, la prison d'Ngozi a connu 19 jours consécutifs sans distribution de haricots au mois de mai, tandis que à Bimba, les détenus ont subi 12 jours sans haricots et 5 jours sans farine. Il faut aussi souligner que l'accès aux soins de santé est devenu de plus en plus limité, car dans certains établissements, les prisonniers doivent acheter eux-mêmes leurs médicaments, y compris lorsqu'ils sont transférés à l'hôpital. Le rapport attire enfin l'attention sur les personnes les plus vulnérables. 71 nourrissons vivent aujourd'hui en prison avec leur mère. Ce sont des enfants qui grandissent dans un environnement marqué par la promiscuité, le manque d'hygiène, les risques sanitaires et la malnutrition. Face à cette situation, ACAT Burundi appelle les autorités à agir sans délai. L'organisation recommande notamment de libérer les personnes acquittées, d'accélérer le traitement des dossiers des détenus en détention préventive, de poursuivre le désengorgement des prisons les plus surpeuplées, notamment celles de Muramvya. ACAT Burundi appelle également les autorités à veiller à ce que les fiches d'écrou des détenus politiques ne soient pas isolées dans des grèves séparées et puisse être examiné par les commissions de sélection en Pimbang, au Zimbo, en Via Iktega. Pour permettre aux détenus d'avoir accès à la justice, ACAD Burundi demande aussi de faciliter le transport ou regrouper les dossiers des détenus originaires des communes excentrées, de permettre aux magistrats de statuer sur les cas en attente depuis plusieurs mois.
Avant de clore ce journal, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation au Burundi, FENASEB, appelle le gouvernement à analyser les causes du faible effectif de certaines écoles avant d'appliquer la décision du ministre de l'Éducation nationale de fermer dès la prochaine année scolaire les établissements comptant moins de 25 élèves fondamentaux et moins de 15 postes fondamentaux. Antoine Manouma, qui dirige cette fédération, estime que cette mesure pourrait avoir des conséquences négatives sur les élèves, les enseignants et la qualité de l'enseignement. Écoutons-le.
La mesure est contenue dans la correspondance du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 25 juin 2026, adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation, ordonnant la suspension provisoire des classes de moins de 25 élèves à l'école fondamentale et de moins de 15 élèves à l'école post-fondamentale devait être mise en application après des analyses approfondies, car elle est pleine de conséquences fâcheuses, y compris la baisse des performances une fois que les élèves et les enseignants sont transférés aux écoles éloignées de leur domicile. De plus, il est nécessaire de se pencher aux causes réelles qui sont à l'origine de la baisse des effectifs dans les écoles. Certaines écoles ont été construites dans les localités moins peuplées ou ont été amassés dans une même zone parce que les ressortissants sont plus influents auprès des décideurs. En principe, les écoles devaient être implantées après avoir consulté la carte scolaire pour éviter qu'elles soient sous-employées. Le rythme du décrochage scolaire est inquiétant. Au début de l'école fondamentale, le taux de scolarisation est très élevé. Il diminue progressivement au fur et à mesure qu'on avance vers le troisième cycle de l'école fondamentale et la baisse des effectifs s'accélère vers le quatrième cycle et est aggravée par un nombre élevé d'élèves qui échouent en septième année. Il est donc nécessaire de prendre des mesures adéquates pour le maintien des enfants à l'école, y compris la recherche de réduction du niveau de paupérisation qui frappe nombreux ménages. Au niveau de l'enseignement post-fondamental, les lauréats de la 9e année sont orientés dans certaines sections sans considérer la note obtenue au concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. Certains élèves préfèrent se chercher eux-mêmes des sections abordables. Ceux qui optent pour la poursuite des sections imposées échouent en masse et les classes finissent par se fermer définitivement. Ce phénomène s'observe dans les écoles post-fondamentales communales qui accueillent les lauréats de la 9e année ayant obtenu de faibles résultats au concours national de 9e année.
Et voilà, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julienne Muzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. À la prochaine.